livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Jean Lézelbaum sur Judaïque FM.
Livre Café des Psaumes, pour cette rentrée, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Attia pour qu'il nous parle de son livre « Moïse fragile ». Ce livre a été publié mars-avril, probablement, 2015, mois de mars, dans une nouvelle maison d'édition, Alma Éditeur. Alma s'écrit A-L-M-A, éditeur, bien entendu. Alors, trois petits mots sur Jean-Christophe Attia, que j'ai en face de moi, de nous, devrais-je même dire. C'est un professeur, grand universitaire. Il enseigne à l'école pratique des hautes études. Il occupe la chaire de la pensée juive médiévale. Médiévale n'est pas indifférent, d'ailleurs. On le verra plus tard. Il a écrit très nombreux livres. Beaucoup de ses livres sont des participations. Enfin, beaucoup de ses écrits sont dans le cadre de dictionnaires, d'ouvrages collectifs. Mais il en a écrit aussi bien d'autres. Et nous aurons peut-être aussi l'occasion d'en parler. Alors, merci donc, Jean-Christophe Attia. Vous avez évidemment surpris tout le monde avec ce Moïse fragile. Surpris dans la mesure où, à peine était-il édité, que vous voici récompensé par en recevant le prix Goncourt de la biographie. Et je crois que la semaine prochaine, justement, vous ne pouviez pas être là parce que vous serez à Nancy, où le prix est traditionnellement décerné. Alors, une biographie, recevoir le prix de ce prix Goncourt de la biographie, c'est un peu curieux parce que ce livre, c'est tout sauf une biographie.
Oui, à vrai dire, j'ai découvert que c'était une biographie lorsque j'ai découvert que j'étais dans la liste des sélectionnés. Je n'ai pas eu l'idée, le projet d'écrire une biographie parce que je suis récompensé pour une biographie qui n'en est pas une, consacrée à un personnage dont nul ne peut démontrer l'existence historique. Donc c'est un peu paradoxal. Bon, c'est un choix du jury qui m'honore et qui me surprend en même temps. Voilà. Mais c'est bien qu'un jury de prix surprenne un peu le public et donne ses chances à un livre qui n'était pas au programme, si je puis dire.
Oui. Mais ceci dit, il me semble que l'accueil qui a été fait immédiatement au livre, avant même que vous soyez décerné ce prix, était déjà très éloquent.
Il était très favorable. Je pense que j'ai un petit peu surpris mes lecteurs habituels, qui ont plutôt lu des livres un peu austères, un peu, parfois même un peu arides, disons le mot, des livres d'universitaires. On peut les qualifier de livres savants. Et puis là, je me suis laissé un peu aller.
Oui, laissez-vous aller dorénavant, parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut, mais il n'y a pas trace de l'académie et de l'université, sinon par la rigueur du propos et de la recherche.
Oui,
mais pour ce qui est de l'écriture, c'est une écriture extrêmement agréable.
C'était le projet.
C'est réussi.
J'ai voulu en fait me libérer un peu, desserrer le corset, me libérer du carcan universitaire. Il ne s'agit pas d'oublier toute rigueur. Je viens quand même avec mon acquis d'universitaire et de chercheur. Donc rigueur, autant de sciences que possible, mais en même temps une écriture si possible, c'était le projet, aussi libre, aussi accessible que possible. Et disons que j'ai écrit ce livre sans me demander si mes collègues approuveraient ma démarche, et c'est quand même une vraie libération.
Oui, ben c'est d'autant mieux, c'est d'autant plus intéressant que lorsqu'on lit ce livre, donc... Il n'y a rien de pesant. Ce n'est pas un livre facile, tout de même, à lire. Parce qu'il faut coller à ce que vous dites.
C'est-à-dire que... Oui, ce n'est pas un livre facile. J'essaie de tenir le lecteur par la main. Mais en même temps, je pense que le lecteur gagne à découvrir qu'il y a effectivement des difficultés, que c'est peut-être facile d'accès et en même temps pas simple.
Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple, d'autant plus que vous essayez de dénouer des complexités quand vous les recherchez pas.
Oui, mais je les recherche en fait. Puisque qu'est-ce qui m'a intéressé dans le récit de la vie de Moïse, tel qu'il est dans le Pentateuque, c'est précisément les passages les plus obscurs.
Voilà. Hein. Et vous avez choisi à dessein, de telle sorte que vous avez dressé le portrait entre guillemets, hein, le portrait entre guillemets. Disons que vous avez étudié le Moïse qui est le vôtre. C'est votre, c'est le Moïse que vous avez recherché.
C'est le Moïse que j'ai recherché, oui. C'est un Moïse que j'ai trouvé. Oui. Et j'ai découvert que je n'étais pas le seul à l'avoir cherché. Donc je suis en compagnie quand même d'auteurs.
Dont
oh, il y en a de toutes sortes.
Mais d'abord.
Ça peut être Philon d'Alexandrie, Rachi, Abraham ben Ezra, Moïse Nachmanide et bien d'autres. Beaucoup de médiévaux, évidemment. Mais aussi des sources talmudiques et midrashiques qui m'ont pas mal servi. Donc je ne suis pas seul dans ce voyage. C'est un peu... Et c'est effectivement un voyage. Je l'ai conçu comme ça. Je suis à la recherche d'un personnage.
Oui.
Et petit à petit, le personnage se construit, se dessine. Il reste quand même un peu flou et c'est la marge de liberté du lecteur.
Voilà. Juste pour donner le ton du livre, c'est la fin de l'introduction. Je vous la lis. « Ce faisant, j'ai pris le risque de me brouiller avec tout le monde, avec mes collègues historiens pour avoir trahi leur méthode et négligé leurs leçons, avec les croyants pour n'avoir pas su renoncer tout à fait à l'ironie. Quant à Dieu, qui n'existe pas, je suis encore assez déraisonnable pour espérer en sa miséricorde. » À bon entendeur, salut.
Hein, bah, écoutez,
vous espérez.
Oh, bah, l'espoir fait vivre.
Fait vivre. Hein. Ouais. Ouais, d'autant plus que vous êtes suffisamment jeune pour que, justement, les choses puissent évoluer.
Tout peut changer, voilà. Bien sûr.
Alors, ce Moïse que vous nous proposez, ce Moïse-là, il est aux antipodes de tant de choses que nous croyons savoir de lui. C'est-à-dire toutes ces images d'Épinal ou sulpicienne, vous voyez, au sens de Saint-Sulpice, si vous voulez, c'est-à-dire le Moïse qui descend avec les deux rayons qui sortent de sa tête, hein, c'est-à-dire le Michel-Ange, bien sûr, c'est-à-dire ce que dit de lui aussi un auteur-compositeur comme Schoenberg, par exemple, et Freud, bien entendu, et puis, j'allais l'oublier. Non, tout cela, on ne le voit pas. On ne le voit pas au sens que vous vous êtes attaché au texte.
C'est-à-dire que je commence par déconstruire un peu cette image toute faite. Vous avez donné les meilleures sources, mais il y a aussi le cinéma quand même.
Oui, j'ai oublié.
Qui pèse de tout son poids. Vous avez
les 10 commandements de
Cécile B. 2000. Mais vous avez eu bien pire récemment avec le film de Ridley Scott.
Oui.
Bon, effectivement, ça, c'est des images qui ont envahi notre imaginaire, qui s'imposent à lui. Qui ne pense pas Moïse en héros athlétique, musclé pas franchement facile à vivre, très dur avec son peuple, parfois dur aussi avec Dieu lui-même, mais disons un personnage très, très viril. Et ça, c'est un personnage qui m'intéresse assez peu.
Assez peu.
Assez peu. Et qui n'est pas si présent que cela dans le texte biblique lui-même, où les fragilités du héros sont très souvent mises en valeur.
Et ça commence très tôt. Ça commence très tôt, c'est-à-dire dès sa naissance. Dès sa naissance et dès sa nomination. Je dois dire au lecteur que nous sommes beaucoup aidés par quelque chose de très astucieux de Jean-Christophe Attia, c'est que dès le début, il nous rappelle, en s'attachant au Pentateuque tout simplement, et plus précisément à 4 de ses livres, hein, puisque la Genèse, c'est la Genèse simplement, et Moïse n'y est pas là, c'est plutôt la présence d'Abraham.
Au grand maximum, selon la tradition, il en serait l'auteur ou le rédacteur, mais il n'est pas présent dans le récit.
Pas présent. Dans les 4 autres, bien sûr, ce n'est pas le cas. Eh bien, il y a un rappel, justement, extrêmement intéressant de ce Moïse tel qu'il apparaît dans la Bible.
Oui, parce que je suis parti véritablement du texte de la Bible. Mon projet, ce n'est pas du tout une enquête historique, de restituer le personnage historique éventuel, de critiquer les sources. Je prends le récit tel qu'il est, et c'est le récit tel qu'il est que j'explore.
Alors, si on commençait, on commence par le début, c'est-à-dire le premier chapitre, le corps blessé du prophète.
Oui, le corps blessé du prophète. En réalité, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment ou pas assez souvent relevé. C'est un drôle de prophète que Dieu s'est choisi, non ? La première de ses caractéristiques, et qu'il oppose à Dieu pour essayer de se décharger de cette mission qu'on veut lui imposer, c'est qu'il a la langue pesante, les lèvres pesantes. Enfin, alors évidemment, on peut...
Le texte le dit.
Le texte le dit clairement, oui. Mais ce qu'il dit n'est pas vraiment clair. Donc il faut un petit peu expliquer ce que ça peut vouloir dire. Alors évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, et je pense que c'est la chose la plus intéressante, c'est qu'il a un vrai défaut d'élocution. Oui. Peut-être qu'il est bègue. Voilà. Et d'ailleurs, Rachid le dit clairement. Il utilise un mot d'ancien français, qu'on retrouve d'ailleurs dans balbutier en français contemporain. Donc Moïse est un prophète qui balbutie, peut-être qui bégaye, qui bafouille. C'est quand même très paradoxal. Alors évidemment, ça gêne certains commentateurs, hein, qui ne sont pas du tout d'accord pour retenir cette interprétation, parce qu'un prophète, celui qui doit transmettre à son peuple la loi divine sans la modifier, sans l'altérer, hein, dans sa perfection et sa pureté, c'est un homme qui bafouille. Et ça, c'est le corps blessé du prophète. Hein. Il a quelque chose, il a un problème, la bouche, la langue, les lèvres, qui le gênent. Alors ça me paraît très intéressant. Parce que
vous expliquez comment ?
Alors il y a plusieurs traditions.
Il
y a des récits variés. Il y a un récit célèbre qui est souvent repris, dont il existe plusieurs versions, selon lequel Moïse enfant à la cour de Pharaon, il ne parle pas encore. C'est véritablement un enfant. Il se saisit de la couronne de Pharaon et la fait tomber par terre. Ou la met sur sa propre tête.
Ça va mal.
Alors évidemment, c'est quand même, ça suscite une certaine inquiétude à la cour de Pharaon. Et on décide de mettre l'enfant à l'épreuve. Ou bien c'est un enfant qui n'a pas encore toute sa raison et qui fait des gestes un peu inconsidérés, sans signification particulière. Au contraire, il s'agit là quelque chose qui annonce... une catastrophe pour Pharaon et pour l'Égypte. Alors on le met à l'épreuve et on lui présente sur deux plateaux distincts une pierre précieuse et dans l'autre un charbon ardent. Et donc Moïse, qui ne parle pas mais quand même qui est déjà très futé, tend la main vers la pierre précieuse et un ange intervient in extremis, hein, pour détourner sa main de la pierre précieuse, et il se saisit du charbon ardent et il le porte à sa bouche, et se brûlant la bouche, il devient effectivement bègue. Et de cette façon, on le sauve d'une mort certaine. Voilà, c'est une explication, mais je pense que il faut aller peut-être un petit peu au-delà.
Alors justement,
ce récit a l'air un peu, c'est un récit, c'est un beau récit, c'est un conte.
C'est le sens premier.
C'est le sens premier. Je pense qu'il était important probablement que Moïse soit fragile dès sa naissance, dès ses premières années. Et je pense même qu'il ait cette façon d'humilier le corps du prophète, en fait. Voilà, prophète bègue, l'obligera par exemple obligera Dieu lui-même à lui trouver un second. Un adjoint qui est son frère Aaron, qui sera son porte-parole. Et j'aime beaucoup ce dédoublement de la figure de prophète. Hein, tout d'un coup, il y avait un prophète, maintenant il y en a deux.
Hein. Pas sur le même plan.
Pas sur le même plan, hein. Le texte biblique est assez clair là-dessus. Hein. De la même façon que Moïse est le prophète de Dieu, Aaron devient en quelque sorte le prophète de Moïse. Son porte-parole. Et j'aime bien ce compagnonnage des deux frères et ce dédoublement de la figure du prophète qui finalement souligne certaines limites du personnage.
Quel est le rapport que vous faites avec le thème de la circoncision ?
Alors
c'est central, la circoncision.
Oui, parce que il y a plusieurs passages. Il y a un passage célèbre du texte qui évoque la circoncision en lien avec Moïse. Mais ce qui est curieux dans le texte biblique, c'est qu'on ne nous dit pas grand-chose de la naissance de Moïse. On dit qu'il naît, hein, qu'il est caché, puis après abandonné sur le Nil. Très bien. Et les parents ne sont pas nommés, au moins au début. Ils ne donnent pas de nom à leur fils. On n'annonce pas sa circoncision. Hein. Par exemple, à la naissance d'Isaac. Bon. Et plusieurs textes midrashiques, donc de la tradition exégétique ancienne s'interroge sur, sur ce silence. Hein. Il y a des silences gênants dans la Bible, ou des silences riches de potentialités. Et donc, il y a plusieurs explications. Ou bien, on ne nous a pas tout dit, finalement, tout s'est passé comme d'habitude, les parents ont circoncis leur fils et lui ont donné un nom. Ou peut-être, et c'est une autre interprétation, peut-être que Moïse est né déjà circoncis.
Voilà.
Et donc, il n'a pas eu besoin, il n'y a pas eu nécessité de le circoncire. Et donc là, cette circoncision à la naissance, est-ce que c'est une perfection du corps du prophète ou est-ce que c'est déjà un corps du prophète blessé ? Donc, je pense qu'il y a, effectivement dans la tradition biblique et rabbinique des éléments... Le corps du prophète, il est très présent dans le récit. Il y a peu de personnages bibliques qui soient présents à ce point physiquement, charnellement. Hein. On nous dit que sa mère le trouve beau. Bon, ça, c'est normal. Mais on nous reparle de lui à la fin de sa vie en nous disant que son regard ne s'est pas terni, qu'il meurt en pleine forme. C'est un homme qui est en pleine santé, si je puis dire, jusqu'au dernier moment. On nous parle de ses bras, on nous parle de sa main aussi, puisque c'est cette main qui devient lépreuse et qui redevient saine. C'est un des miracles que Dieu lui permet d'accomplir pour convaincre Israël de sa mission.
Il y a les bras levés de
Moïse qui garantissent en quelque sorte la victoire aux troupes d'Israël contre Amalek. Donc le corps du prophète est très présent et il est à la fois toujours magnifié, ce prophète en pleine santé et dont le corps ne serait pas, selon Rashi même, soumis à la corruption après sa mort. Hein. Donc il y a cette exaltation du corps du prophète et en même temps, on souligne périodiquement que le corps du prophète est fragile, il est bègue.
Et après, quand il lève les bras pour...
Il a besoin d'aide, là encore.
Il a besoin d'aide.
Parce qu'il fatigue. Hein. C'est pas si facile que ça de tenir les bras levés. Et donc, il y a deux de ses adjoints, dont Josué, qui sont là pour lui tenir les bras.
Le thème de la circoncision, on le retrouve plus tard avec l'un de ses fils.
Ah oui, ça
c'est très important.
Alors ça, c'est le passage le plus obscur texte biblique. C'est trois versets, hein, versets dont on les lit, on comprend pas grand chose. On les relit, on comprend toujours pas. Et ce qui est intéressant, c'est quoi qu'on pense de la manière dont la Bible s'est constituée. Probablement l'agrégation de traditions diverses, la mise ensemble de textes d'origine variée.
N'hésitez pas à le dire.
Oui, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne gênait pas non plus Buber et Rosenzweig quand ils traduisaient la Bible. Hein. Bon. Le rédacteur, R, ça pouvait être Rabbeinu aussi, hein, peu importe.
Le rédacteur.
Voilà, le ou les rédacteurs, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que la version finale, si ce livre, la Bible... Le Pentateuque était passé chez un éditeur digne de ce nom, il aurait été un peu réécrit, on aurait gommé les coutures, et ce passage aurait probablement sauté, parce que l'éditeur aurait dit, mais ça, on ne comprend pas, qu'est-ce que ça vient faire là ?
Et diable, pourquoi vous êtes-vous occupé de celui-là ?
Ce qui m'a intéressé, c'est que les rédacteurs finaux, ceux qui sont responsables de la dernière version, ont choisi de ne pas censurer ce passage qui ne semble pas faire sens. Puis, c'est quoi cette histoire ? En fait, elle est toute simple. Moïse vient d'accepter la mission qu'on lui a confiée. Dieu lui a confié la mission de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Fort bien. Et il lui dit, vas-y, pars, rends-toi en Égypte. Et Moïse se met en route. Et la première chose qui lui arrive à la nuit tombée, à une halte, c'est que Dieu, semble-t-il, ou au moins un de ses messagers, veut le tuer.
Hein,
c'est quand même, si on doit parler d'un prophète fragile, je crois que la fragilité, elle est là, exemplaire. Celui qui a décidé d'en faire son prophète est en même temps celui qui, immédiatement après, veut le tuer.
Ça en dit pas mal sur Dieu.
Oui, ça en dit pas mal sur Dieu. Ça explique peut-être la fin de mon introduction.
Oui.
Et je pense que le récit, d'ailleurs, de ce Moïse, le portrait de ce Moïse fragile, fait ressortir en creux une image de la divinité qui est beaucoup moins réconfortante que celle qu'on voudrait avoir en tête. C'est un dieu obscur, c'est un dieu complexe, un dieu paradoxal, c'est un dieu dangereux.
À terre ancienne, que vous avez consacré un chapitre, les traquenards divins.
Oui, en plus, c'est un dieu qui piège ses fidèles et qui va s'arranger à la fin pour que Moïse pêche, pour avoir une bonne raison de ne pas le laisser entrer en Terre Sainte et de programmer sa mort. Et donc Dieu veut le tuer. Et là, il y a trois versets, simplement. À la fin, il est sauvé. Dieu ne le tue pas. Il est sauvé par un geste de son épouse, Séphora.
Voilà.
Séphora, qui n'est pas une Hébreu, qui est une Madianite, qu'il a épousée.
C'est-à-dire une Éthiopienne.
Non, ah non, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. D'accord. Parce que hein, si Moïse a une ou deux femmes, c'est une.
Voilà, voilà.
Et c'est donc elle, une femme, Séphora, qui va sauver Moïse de la mort en pratiquant la circoncision, vraisemblablement, sur un de ses fils.
Le deuxième.
Vraisemblablement. Parce les commentateurs sont très divisés sur cette histoire.
Parce que le premier était promis.
Alors, il y a, une vieille tradition qui dit, voilà, Moïse s'est arrangé avec son beau-père, qui était un prêtre idolâtre, hein, Jéthro, en disant, voilà, j'épouse ta fille, on va faire un accord. Le premier sera réservé au Dieu d'Israël et le second au culte idolâtre de mes fils. Hein.
Ouais.
Et il semblerait que c'est à ce moment-là que Dieu décide que c'est pas possible de continuer comme ça. Et Séphora, mais c'est quand même Séphora, la Madianite, la fille du prêtre idolâtre, qui va donc pratiquer la circoncision sur le seul des deux fils qui ne l'est pas. C'est une explication qui, moi, me satisfait assez peu, qui d'ailleurs suscite le scandale chez certains commentateurs. Comment Moïse, le prophète, le plus grand prophète qui ait connu Israël, aurait pu passer un tel accord avec un prêtre idolâtre et sacrifier, en quelque sorte, abandonner un de ses fils à l'idolâtrie? C'est peu vraisemblable. Le texte est obscur et finalement...
Vous en tirez très bien, pourtant, dans l'explication.
Je ne sais pas si je m'en tire, parce qu'à la fin, ça reste quand même un peu noir. Ce qui me semble important...
Ça reste un peu noir parce que ça se passe...
La nuit.
Et vous insistez là aussi beaucoup.
Il y a plusieurs choses qui me semblent importantes. Je pense que ce texte dit des choses sur la circoncision, puisque finalement c'est la circoncision, le sang versé du fils qui va sauver le père. Et on retrouve ce thème évidemment à nombreuses reprises dans le récit biblique, y compris dans le récit de la Pâque, avec l'agneau pascal, avec même la conception du sacrifice. Donc il y a une dimension sacrificielle dans la circoncision qui est soulignée par ce récit. Mais il y a quelque chose de plus important, me semble-t-il, encore dans cette histoire, c'est que celle qui circoncit l'enfant de Moïse et le sien, et celle qui sauve Moïse de la mort, et qui en quelque sorte accomplit la volonté divine, un, c'est une femme, deux, c'est une étrangère. Et ça en dit long aussi sur la dimension finalement très universelle du récit. Dans cette affaire, le prophète d'Israël est sauvé par une femme madianite. Et cette femme, c'est son heure, hein, c'est le grand moment de sa vie. C'est le seul moment où elle s'exprime. On la retrouve un peu plus loin dans le récit, mais de manière un peu anecdotique. Et là, elle joue un rôle central, parce que si elle n'intervient pas, ben, le récit s'arrête là, tout simplement.
Alors, puisque vous avez parlé... d'une femme, et que vous lui accordez évidemment l'importance qu'il faut lui accorder, au moins dans ce texte. J'aimerais aborder avec vous un sujet, je pensais l'aborder un peu plus tard, mais abordons-le maintenant. C'est que, à plusieurs reprises, vous parlez du féminin de Moïse,
oui,
compte tenu de sa fragilité. Et je dois dire que je me demande dans quelle mesure vous n'obéissez pas, vous ne suivez pas une certaine mode. Parce que finalement, chaque fois que vous parlez de féminin, ce sont des aspects que j'appellerais vulgairement humains qui apparaissent. Un homme n'est pas constitué simplement de force et d'intelligence. Chacun sait qu'il a aussi d'autres aspects.
Mais je ne féminise pas Moïse. Si Moïse est bien le personnage qu'on nous dit qu'il est, à savoir un humain qui peut servir de modèle... Il faut bien qu'il soit un peu féminin. Enfin, je n'imagine pas un seul instant que Moïse puisse servir de point d'identification à la moitié du peuple juif ou à la moitié de l'humanité et pas à l'autre moitié. Et je ne cède pas à une mode. Je pense que, vous songez aux études de genre, aux études féministes. Voilà. Par exemple, aux États-Unis, il y a tout un courant d'études juives féministes. Qui est loin d'être... C'est pas une mode, c'est véritablement... Il y a une exigence scientifique, intellectuelle et militante. Bon, très bien. Je m'inscris un peu là, dans ce sillage sans pour autant m'y inféoder. Oui. Donc, il y a effectivement... nous vivons dans un contexte, dans un monde qui nous permet, en quelque sorte, ou qui nous incite à faire ressortir cette dimension féminine de Moïse. Et ce n'est pas seulement la vulnérabilité. Parce que ça serait trop facile. Et finalement, ça serait pas très féministe, hein, parce que si Moïse n'est féminin que lorsqu'il est fragile, voilà, ou vulnérable, c'est un peu ennuyeux. Et c'est pas tout à fait ça. C'est aussi, il se révèle féminin dans une certaine façon de concevoir le pouvoir, de désirer le partager et ne pas l'assumer seul. Et surtout, ce que on ne doit pas oublier, c'est que dans le récit, alors c'est un récit patriarcal, on est d'accord. Mais dans le récit, les femmes sont extrêmement présentes.
Oui.
Il y a la mère de Moïse qui le cache. Il y a la sœur de Moïse qui le protège et qui suit.
C'est Myriam.
Il y a ensuite Séphora qui le sauve.
Oui.
Il y a la femme égyptienne qui va l'adopter.
Oui. Il y a la fille du pharaon.
C'est donc la fille du pharaon. Hein, et donc, il y a une présence des femmes qui est cruciale dans le récit. Vous enlevez les femmes, le récit disparaît. Et le personnage central disparaît. Ça, c'est le premier élément qu'il faut souligner. Il y en a un deuxième. Alors, évidemment, je suis allé chercher dans les coins du texte biblique. Je suis allé chercher là, dans les recoins. Et j'ai trouvé.
Au moins dans les coins.
Oui,
et les recoins.
Et les recoins.
Oui.
Là où le sens peut-être se cache. Hein. Vous savez, il y a une phrase très, très, très jolie de la tradition exégétique juive qu'on peut lire chez de nombreux auteurs. Ce verset te dit d'Archéni. Ce verset que tu es en train de lire, il est obscur, mais c'est précisément parce qu'il exige de toi que tu l'interprètes et que tu fasses effort pour le comprendre. Saint Augustin disait la même chose en disant qu'il y a des versets par lesquels Dieu nous cligne de l'œil, en quelque sorte, et nous fait signe et nous invite à aller plus loin qu'eux. Et je pense que donc je suis allé chercher dans les coins et les recoins du texte biblique et j'ai découvert un passage où Moïse... même peut-être deux passages où Moïse semble parler de lui-même au féminin. Il utilise, pour se désigner lui-même, un pronom féminin. Alors, c'est intéressant. Évidemment, ça ne dit peut-être rien. L'hébreu biblique n'était pas aussi scrupuleux en matière de grammaire qu'on a pu l'être ensuite au Moyen-Âge. Mais il y a quelques commentateurs qui relèvent cette bizarrerie en disant « Tiens, c'est curieux. » Moïse parle de lui-même au féminin et Rachid dit que sa force à ce moment-là, c'est dans des circonstances où sa force s'affaiblit kinkeva, comme s'il était une femme.
Ah oui.
Alors évidemment, c'est donc des moments où Moïse se révèle, se découvre et se reconnaît fragile. Mais cette fragilité n'est pas comme Rachid le laisse entendre seulement une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force de Moïse qui s'exprime d'une manière indirecte. À savoir, c'est les moments où, effectivement, il assume cette faiblesse et la revendique comme une force. Et donc, vous avez aussi un passage célèbre où Moïse se présente, reproche à Dieu d'avoir fait de lui un nourricier. Qui a adopté ce peuple, qui le porte...
comme une femme.
Tout est au masculin, ouais. Mais en fait, tout est féminin dans cette histoire. Et je pense qu'il y a une ambivalence du personnage, qui est masculin, bien évidemment, hein, et féminin, et qui lui confère sa richesse, son ambiguïté, son intérêt. Et pour le coup, il subvertit l'idée qu'on peut avoir de ce qu'est le masculin en lui et de ce qu'est le féminin en lui. Peut-être que c'est le féminin qui est sa force, c'est le masculin qui est sa faiblesse. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est la tension entre les deux.
Quel est le rapport que vous faites entre Moïse fragile et Moïse un peu inachevé, ou dans l'œuvre est inachevé? Parce que finalement, il est forcé de mourir, c'est le cas de le dire, portes de Canaan. Pas aux portes, à la vue de Canaan.
Oui.
C'est à la vue.
Ça, c'est l'autre. Je pense que c'est l'autre dimension centrale du personnage. Oui. Il va pas jusqu'au bout.
Non.
Il le regrette, certes. Il insiste et Dieu lui dit que non, c'est comme ça.
Et je pense c'est comme ça parce qu'il aurait commis plusieurs erreurs.
Oui, mais alors, quand on regarde bien le texte, il a commis peut-être un ou deux péchés. Alors, évidemment, la tradition juive est claire là-dessus. Ça nous semble de petites choses. Hein. Mais s'agissant de Moïse, de toute façon, de petits péchés deviennent de grands péchés. Hein, et justifient une sanction grave, comme l'impossibilité d'entrer en Terre Sainte et la mort. Mais je pense que ça va bien au-delà. En réalité, Dieu a piégé son prophète. Il l'a fait pécher. Et l'intention première de Dieu, c'est d'empêcher Moïse d'aller jusqu'au bout de ce destin qui semble être de faire entrer le peuple en...
Quel a été le dernier piège ?
Alors, le dernier piège...
Dans lequel tombe Moïse ?
Alors, le dernier piège... Il y en a un qui est intéressant et qui a souvent été commenté. C'est à la fin de l'histoire. Oui. Hein, les Hébreux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts. On s'est débarrassé de cette génération-là.
Bon, il est temps d'entrer dans Canaan.
Il est temps d'entrer dans Canaan. Mmh. Et puis, Myriam vient de mourir.
Aussi, hein. La sœur.
Et les Hébreux ont soif. Bon, ils ont toujours quelque chose qui...
Ils ont faim ou soif.
Bon, là, ils ont soif. Et on a l'impression que le récit reprend un épisode déjà vécu au tout début.
Oui.
Au tout début de l'histoire, les Hébreux ont eu soif. Et Dieu a dit à Moïse, frappe un rocher, le rocher. Il a frappé le rocher a donné de l'eau et il a abreuvé le peuple. Et à la fin du récit, donc 40 ans plus tard, à l'entrée, à la veille de l'Ancien Grand Terre Saint, on a l'impression qu'on rejoue le même scénario, la même scène. Alors, il est probable que ça, en fait, c'est le même récit dans deux versions différentes. Peu importe. 40 ans plus tard, on a l'impression que c'est la même chose. Dieu dit à Moïse et à Aaron, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont là tous les deux ensemble, vous allez parler au rocher, et il va donner de l'eau à Israël.
Vous allez parler, dit-il.
Oui, et curieusement, le texte est un peu obscur, on a l'impression qu'il est mal écrit, qu'il manque des choses, c'est très bien ça. Et finalement, Moïse ne parle pas au rocher. Il le frappe. Comme la première fois, hein, c'est... Et il le frappe deux fois. Parce que là, apparemment, la première fois, ça ne marche pas. Et ça, c'est une faute commise par Moïse et qui pourra justifier, et par Aaron, hein, puisqu'ils sont associés dans cette affaire, qui pourra justifier le verdict hein, divin d'interdiction d'entrer dans la Terre Sainte et de mort en exil, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est peut-être finalement que Moïse a quand même pris un petit coup de vieux. Peut-être que sa mission est déjà achevée avant qu'il ne meure. Puisque ce qui est remarquable, c'est que il est le prophète de la parole, celui qui transmet la parole. Et lorsque Dieu, là, tout à la fin, lui demande de parler au rocher, il renonce à ce ministère de la parole et il frappe le rocher. Comme si quelque chose déjà avait commencé de s'éteindre en Moïse. Hein. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Peut-être Moïse est-il déjà mort à ce moment-là comme prophète. J'ouvre le débat. Hein. De toute façon, vous savez, le lecteur, à la fin, il fait ce qu'il veut. Il tire de... J'ai jamais voulu dire Moïse est ce que j'en dis. J'en dis d'ailleurs des choses parfois un peu contradictoires. Et c'est ça qui est intéressant.
Généralement, vous avez deux ou trois options.
Au minimum.
Que vous appelez options, d'ailleurs.
C'est des options. Et puis, je conduis un peu le lecteur par la main. Je dis, voilà, il y a un problème ici, c'est pas clair. Voilà ce qu'on peut en penser. Et puis, immédiatement, j'oppose à ça une objection que je trouve moi-même ou que je trouve chez des commentateurs antérieurs. Ce qui fait qu'on est obligé de reprendre l'interprétation là où on l'avait laissée. L'idée, ce n'est pas de satisfaire le lecteur, hein, c'est d'entretenir son appétit. Hein, parce que finalement, aucune solution ne se suffit à elle-même. C'est un peu le projet du livre. C'est-à-dire que mon souci, c'est de faire entrer un peu le lecteur dans l'atelier de l'exégète. Qu'est-ce que c'est que produire une exégèse biblique ? Ce n'est pas aboutir à un sens ultime et définitif. C'est précisément ce travail... tâtonnant, 100 fois repris, incertain, qui est le véritable travail de l'exégète.
De l'exégète. Alors justement, entrons dans cet atelier. Dans cet atelier. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, sur cette même antenne, dans la même émission, nous avions reçu l'auteur de « Lire la Torah ». Les deux livres ne se situent pas au même plan. L'un a été publié au Seuil, je crois. Oui, c'est ça. C'est au Seuil. Et c'était tout de même animé un peu de la même idée. Hein. C'est essayer de comprendre comment on peut essayer d'aller aussi loin que possible dans l'interprétation, proposer son interprétation. Comment faites-vous ? À plusieurs reprises, dans le livre, vous montrez les procédés. Par exemple, quand les textes vous paraissent obscurs, vous n'hésitez pas à rajouter telle ou telle phrase qui aurait non pas sauté, mais qui paraissait peut-être au rédacteur inutile à mentionner.
Oui, c'est d'ailleurs ce que fait, c'est pas moi qui le fais,
hein. Non.
Et ce que fait par exemple le Targum, donc l'antique tradition araméenne, traduction, paraphrase, oui. Et même interprétation du texte biblique. Donc oui, effectivement, le Targum, il arrive que le Targum réécrive en quelque sorte un verset biblique et comble ce qui peut être perçu comme un manque, comme un oubli. Alors, ça n'est jamais qu'une option, ça n'est jamais suffisant. Et d'autant qu'on peut avoir sur un même texte un targoum, des targoumim très différents. Donc c'est l'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte biblique nous a été livré incomplet.
Voilà.
Il manque des choses.
Et il faut les ajouter.
Et c'est un petit peu. Le lecteur a avec le texte le même rapport que l'homme a avec la création. Dieu a créé le monde, très bien. Enfin, pas si bien que ça.
Je vais donner un exemple, si vous permettez.
Oui, allez-y.
Page 112. Moïse, il s'agit du retour de Moïse en Égypte. Moïse emmena sa femme et ses enfants, il les plaça sur l'âne et il rentra en terre d'Égypte. Nous sommes, c'est le texte biblique. Hein. Et vous dites qu'il faut le comprendre ainsi. On n'aura pas le temps d'entrer dans le détail. Moïse, c'est Moïse, hein, mais vous ajoutez pour expliquer, dans un premier temps, vous insistez, dans un premier temps, emmena sa femme, le texte biblique, et ses enfants. Et il les plaça sur l'âne. Toujours le texte biblique. Mais vous ajoutez, mais dans un second temps, après la circoncision du cadet, c'est bel et bien seul qu'il rentra en Égypte. Il est écrit, il rentra, au singulier, et non, ils rentrèrent.
Alors, ce qui est... ces petits ajouts, hein, ces incises, en fait, c'est... Cette intervention dans le texte biblique, elle est toujours justifiée par le texte biblique lui-même. Hein. Il faut quand même trouver dans le verset une petite chose qui permette d'accrocher cette interprétation, ce complément à du solide. Hein. Effectivement, on nous raconte que Moïse est parti avec femme et enfant en Égypte, hein, après que Dieu lui a confié sa mission. Et puis un peu plus loin, on nous dit il rentra en Égypte et c'est au singulier, tout seul. Alors, ça, c'est le texte biblique. Et ce que fait le commentateur, c'est d'essayer d'expliquer ou de justifier ce passage d'un pluriel au singulier. C'est qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Il est parti à plusieurs avec sa famille, mais il est arrivé seul en Égypte. Et ça explique mille autres choses dans le texte biblique. Et pas seulement... ce qui est en jeu, c'est pas le verset. Ce verset-là, c'est tout ce qui l'entoure.
Alors... Dans ce texte, on trouve à plusieurs reprises ces explications, ces différentes options qui sont ouvertes. C'est un livre extrêmement riche qu'on lit et que probablement, en ce qui me concerne, je relirai. Je l'ai abondamment annoté. Et donc, ce sont des perspectives pour plus tard. La conclusion. Alors là, pourquoi cette conclusion? Pourquoi cette conclusion?
Bah, écoutez, j'ai pas pu résister.
Ah oui, je sais bien. Mais pourquoi? Pourquoi l'avoir écrit qui semble... totalement déconnectée.
Ah, elle n'est pas déconnectée.
Ah, alors, expliquez-vous.
Elle n'est pas déconnectée.
Vous avez 2 minutes, pas plus.
Elle n'est pas déconnectée, mais je pense que... je reconnais à la fin du livre que ce Moïse-là, c'est mon Moïse. Le lecteur en fait ce qu'il veut, en prend ce qu'il veut, en retient ce qui lui convient, en rejette ce qui le gêne. Et effectivement, l'ultime qui s'interroge sur Moïse et qui cherche à en dresser le portrait s'interroge en réalité sur le judaïsme.
Hein. Oui,
c'est
oui.
Pas un hasard si Freud, Kafka, Schoenberg et quelques autres ont mis Moïse au cœur de leur réflexion. Moïse permet notamment aux juifs de l'exil et souvent aux juifs sécularisés de se situer par rapport au
c'est
judaïsme.
C'est une entrée incontestable.
Et ça, je pense que ça vaut notamment pour les juifs sécularisés, juifs éloignés du judaïsme éventuellement.
Mais vous avez écrit quoi dans la conclusion?
Moi, j'ai écrit que je pouvais me reconnaître dans ce Moïse-là dans la mesure où il n'était pas un père, mais un maître.
Oui.
Et ce n'est pas Abraham. Abraham, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est le judaïsme d'un maître, c'est celui qui transmet. Et ce qui est... C'est donc un judaïsme de liberté, parce qu'un maître, On apprend de son maître et on peut remettre en cause les enseignements de ce maître. Et c'est une façon, comme une autre, de se mettre, de s'inscrire dans son sillage. Et j'aime cette idée d'un judaïsme toujours vivant, toujours révisable, et qui est transmis par un maître et pas par un père, qui n'est pas le judaïsme que vous transmet, je ne sais pas, les gènes, la famille ou un ancêtre.
Certains enseignements.
Non, je prends le judaïsme comme un enseignement, comme une école, comme une école de pensée ouverte, incertaine, et qui oblige à chaque fois, à chaque génération, chacun de se remettre en question et de remettre en question la leçon qu'il a reçue. Donc ça, ça me paraît... je sais à quoi vous faites allusion, c'est plutôt la fin de la conclusion. J'aime le judaïsme de Moïse, que j'appelle le judaïsme de Moïse, dans la mesure où il me permet d'échapper au judaïsme d'Abraham, c'est-à-dire celui de...
Le père de la nation.
C'est une définition un peu ethnique du judaïsme, même si Abraham est un personnage largement mythique. Hein, et il y a peu de chances que les Juifs descendent d'Abraham. Mais il y a cette idée que les Juifs seraient une ethnie et auraient en quelque sorte un ancêtre commun. Ça ne m'intéresse pas.
Ça ne vous intéresse pas non plus, Josué.
Le judaïsme de Josué, ça ne m'intéresse pas non plus. Bon, c'est une image. Le judaïsme de Josué, c'est le judaïsme de la conquête de la terre, de l'installation, de la constitution d'un État. Bon, je pense que le travers du judaïsme contemporain, c'est peut-être d'avoir trop misé ou seulement misé sur un judaïsme un peu ethnique, celui d'Abraham, ou un judaïsme à la Josué, c'est-à-dire sur le sionisme et l'existence d'Israël comme ultime référence. Je pense qu'on peut remettre au centre aussi le judaïsme de Moïse.
Nous allons nous arrêter là, puisque nous allons laisser le lecteur profiter de ses lectures. Ses lectures, c'est-à-dire celui de Moïse fragile, de Jean-Christophe Attia, aux éditions Alma Éditeur. La semaine prochaine, le dimanche 13 septembre, c'est Jacques Dugofson qui reçoit Rachel Hertel pour parler de « La charrue de feu », édité aux éditions Buchet-Chastel. À la semaine prochaine.
Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Jean Lézelbaum sur Judaïque FM.